Est-ce que quelqu'un a la feuille d'émargement quelque part ou la, est-ce qu'elle circule? Très bien, merci.
Bon, merci à tous. Comme vous le savez, le choix des conférences est très hétérogène. C'est un choix qu'on a appliqué dès le départ. Donc, je suis très contente de vous faire connaître aujourd'hui Anne Rasmussen. J'ai envie de dire quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir du tout. C'est une grande dame de l'histoire des sciences. Hein, vraiment, c'est quelqu'un qui fait un travail formidable, qui est très étonnant. Anne Rasmussen travaille autant sur le patrimoine et communautés savantes, l'ouvrage qu'elle vient de sortir à la presse universitaire de Rennes, que sur l'histoire des médicaments, l'histoire de la médecine, et aussi sur sciences et guerres. Donc je vais présenter Anne. Donc il y a très peu de temps, j'étais assez fière quand même, pour l'Espace Mendès France, parce que je t'ai entendu intervenir avec Anne-Marie Moulin, une grande amie de la maison, sur l'histoire de la vaccination, donc à France Culture. Donc la France Culture était up to date, comme on dit. Donc c'est une émission d'histoire des sciences qui a lieu le jeudi midi. Donc vous voyez, madame disait que l'histoire des sciences a droit de cité. Et en effet, de plus en plus, parce que tous les jeudis à 14h, vous avez une émission à France Culture sur l'histoire des sciences. Et d'ailleurs, notre directeur Didier Moreau a été interviewé à la fin de l'émission la dernière fois sur l'exposition concernant le climat. Donc j'ai entendu avec plaisir Anne et Anne-Marie, que je connais bien, qui est aussi déjà venue ici. Et Anne Rasmussen est venue dans le cadre des Amphis du Savoir et revient pour que vous en profitiez tous. Donc Anne Rasmussen est historienne, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et la technologie. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que l'IRIST à Strasbourg. Je vous invite à aller voir le site. Tes travaux relèvent de l'histoire sociale et culturelle des sciences au XIXe siècle et XXe siècle, et tes recherches récentes portent sur les relations entre guerre, médecine et santé publique. Tu es membre du comité directeur du Centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne. En relation avec le sujet de la conférence Sciences et Guerres, donc on peut lire justement Retour sur 14-18, c'était le thème de la conférence que Anne avait donnée l'année dernière dans le cadre des Amphis du Savoir, donc j'ai repris la bibliographie. Donc il y avait deux ouvrages publiés, tu as publié deux ouvrages en collaboration avec Christophe Prochasson. Donc aussi, ce n'est pas pour nous vanter, mais Christophe Prochasson est venu en début d'année à l'Espace Mendès France dans le cadre des écoles doctorales. C'était vraiment un grand moment. Avec Christophe Prochasson, pardon, Vrai et faux dans la Grande Guerre, aux éditions La Découverte. Les intellectuels et la Première Guerre mondiale, 1910-1919, La Découverte. Et plusieurs articles dans l'Encyclopédie de la Grande Guerre, etc. L'histoire culturelle de la Grande Guerre, ou encore dans la revue 1900. Mais Anne a donné une bibliographie très, 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 très détaillée. Je vous invite à aller la voir. Et donc, le dernier ouvrage, j'ai eu juste le temps de me le procurer parce que j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui me l'a montré à La Rochelle. Donc, c'est bien parce qu'en plus, Sébastien Soubiran qui vient demain. Donc, je vous invite à le consulter ou, bien sûr, à l'acquérir. Patrimoine et communauté savante, préface de François Hartog et postface de Jean Davaillon, donc aux presses universitaires de Rennes. Donc, Anne va nous parler de sciences et guerres. On peut être étonné d'entendre ces deux termes, justement, avoir ces deux termes mis ensemble, parce qu'on connaît plus quand on parle justement des problèmes de sciences et sociétés ou d'histoire des sciences, les termes de sciences et politiques qui ont été initiés par notre ami malheureusement décédé, grand ami de la maison ici, Jean-Jacques Salomon. Donc vous allez entendre ici parler de sciences et guerres, et je suis vraiment très très contente que Anne Rasmussen ait accepté de venir chez nous. Nous t'écoutons, Anne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, une fois, pour cet accueil si chaleureux, si enthousiaste. Bon, je pense que le portrait est sans doute très exagéré. Donc, je parlerai tout à fait modestement d'un sujet aujourd'hui dont l'ampleur, science et guerre, peut-être que l'association des deux mots est surprenante, mais je pense malgré tout que pour vous tous, elle ne l'est guère. Et c'est peut-être plutôt l'ampleur du sujet qui fait peur. Donc, en une heure, à mon tour, hein, ça sera forcément bien partiel. Et il y a peut-être des choses auxquelles vous vous attendez qui ne figureront pas ici et auxquelles peut-être j'ai essayé de renvoyer avec une bibliographie un peu longue, mais assez diverse, où, selon vos intérêts, vous pourrez retrouver des éléments. Donc, merci encore pour l'accueil, merci de votre présence et aussi merci à l'UEFM de cette invitation. Donc, je vous proposerai un exposé très simple, en deux parties. La première étant une invitation à réfléchir à la manière dont ont été pensés historiquement les liens entre les sciences et la guerre, ou les guerres. Donc plutôt une partie historiographique, comme on dit chez les historiens, c'est-à-dire relative aux manières d'écrire l'histoire. Et donc, comment se sont posées les questions des relations entre science et guerre, comment ces liens se sont-ils développés historiquement, mais surtout, quelles analyses ont été produites pour en rendre compte, pour expliquer, parfois pour justifier, hein, parfois pour produire des plaidoyers, quelles questions l'histoire des sciences a pu poser à ce thème. Et puis ensuite, un deuxième moment, donc Anne disait que mes travaux portent plus spécialement, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de l'ensemble, évidemment, d'une période bien longue en ce qui concerne les relations sciences et guerre. J'ai davantage travaillé sur un morceau qui est déjà consistant, qui est la Première Guerre mondiale. Et donc, essayer de traiter un peu de ce cas d'école, hein, en lui posant aussi quelques questions un peu pour éprouver ces analyses, puisque pourquoi la Grande Guerre, peut-être qu'elle est moins attendue que la suivante, la Seconde Guerre mondiale, qui est tellement emblématique, hein, des relations science et guerre, la bombe, la course à la bombe, le projet Manhattan. Alors du coup, peut-être un peu délibérément, pour déplacer un peu les choses, se pencher sur une guerre qui maintenant est présentée très classiquement comme une sorte de matrice pour les problèmes qui se sont posés au XXe siècle en la matière. Alors d'abord, donc, ces liens science et guerre. Et je voudrais partir d'abord d'une histoire des représentations. Pour ma part, Anne le disait, je m'inscris plutôt dans une histoire culturelle et sociale, hein, des sciences et des techniques, où on accorde un grand cas aux images culturelles que l'histoire a produites de tel ou tel événement, hein, donc des représentations. Et donc, je voudrais insister pour commencer sur deux ensembles de représentations des sciences et des sciences en relation avec les guerres. Alors, d'abord, ce qu'on pourrait appeler, c'est nullement original, hein, la science prométhéenne. La science prométhéenne, c'est-à-dire l'idée d'une science qui est destinée à maîtriser le monde naturel, les hommes également, monde humain. Une science qui engendre des techniques, des moyens d'action qui visent à transformer la nature et à la maîtriser, hein, avec une puissance de plus en plus inégalée, et aussi à conférer du coup de la puissance à ceux qui l'utilisent, donc à faire la guerre, en particulier à faire la guerre. Donc c'est l'insistance sur le pouvoir du scientifique, un pouvoir démiurgique, hein, on voit Descartes, hein, qui nous invite à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Alors c'est aussi un modèle des sciences qui s'est développé depuis la révolution scientifique, hein. On peut penser à Bacon, Francis Bacon, la nouvelle Atlantide au début du XVIIe siècle, hein, 1627. La connaissance est présentée comme une activité d'exploration, de découverte. Il s'agit de faire d'abord l'inventaire du monde, donc en l'observant et puis en le classifiant, mais ensuite, et ça c'est le deuxième terme de l'action des savants sur le monde, hein, de modifier ce monde par les applications de la science. Alors cette science moderne qui va se constituer donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elle va mettre en ombre, elle va expérimenter, elle va chercher à décrire les choses de la façon la plus objective, la plus neutre, la plus complète et du coup la plus efficace possible. Et cela débouche sur des savoirs utiles, des techniques, des techniques de maîtrise des choses, des hommes, et donc sur des savoirs qui sont potentiellement opérationnels. Alors voilà pour cette première représentation d'une science prométhéenne. Quelles conséquences cela a sur les représentations? Quelles représentations à son tour cela suscite-t-il? Alors il y a l'idée d'une une vision de la science qui est bonne pour la guerre. La science va produire des applications utiles à la guerre. Et puis en retour, finalement, d'une guerre qui peut être aussi bonne pour la science. L'exemple type, c'est un des sujets plus précisément sur lesquels je travaille, c'est la médecine. Donc, c'est une représentation très commune, celle du progrès médical dans le cadre des conflits. Le conflit permet des avancées Par exemple, Première Guerre mondiale, en termes médicaux, on peut parler de la transfusion sanguine, de la chirurgie maxillofaciale pour réparer les dégâts causés à la face, la prise en charge du handicap d'après-guerre, les mutilés, la vaccination contre la typhoïde, autant de choses qui sont rendues possibles en quelque sorte par la guerre comme champ d'expérimentation quasiment de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques médicales. En Deuxième Guerre mondiale, on peut penser à l'essai en grand de la pénicilline, qui va être aussi un moment très, très classique. Je renvoie alors pour ça à la bibliographie, j'ai fait une petite partie, j'ai essayé de la classer par thème, partie sur la médecine et la guerre. Il y a un article d'un historien de la médecine très important, actuel, Roger Cooter, un Anglais, dont l'article s'appelle « Médecine et la goodness of war », c'est-à-dire l'effet bienfaisant, l'effet bénéfique. Il le discute naturellement, vous l'imaginez, de façon critique, mais en historien des sciences. Donc voilà cette vision de la science bonne pour la guerre et retour. Et puis, autre vision, c'est celle d'une science au service de la guerre, mais présentée comme une libération. Une libération de l'homme au profit de la paix. Donc c'est le thème classique de préparer la guerre pour ensuite assurer la paix, l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, ou préparer la guerre pour abréger les conflits, c'est le grand thème de la bombe atomique, pour mettre un terme, pour accélérer la fin de la guerre, ou par exemple pendant la Première Guerre mondiale, vous avez des spécialistes de la fabrication des gaz toxiques, des gaz de combat, comme Haldane, un biologiste qui travaille avec son père chimiste sur l'expérimentation des gaz et qui va dans l'après-guerre plaider lui-même, qui a fait l'expérimentation même sur lui-même de ces gaz. Il va plaider pour l'emploi des gaz dans le prochain conflit en expliquant que c'est sur la base de raisons humanitaires, dans la mesure où, selon lui, le gaz est moins meurtrier, est incapacitant, et finalement, il raccourcit aussi par ses effets stratégiques, en tout cas, c'est l'objectif, il raccourcit la guerre. Donc voilà un type de thèse que vous pouvez trouver, donc l'idée d'une science finalement rationalisatrice et civilisatrice de la guerre, en quelque sorte. On pourrait en faire un parallèle avec la guillotine. C'est un peu le même esprit. La guillotine du docteur Guillotin rationalise la peine de mort. Donc, c'est un peu ce type de compréhension. Alors, dernier élément de qu'est-ce que ça produit aussi dans la compréhension du lien entre la science et la guerre. Cela produit une image, souvent, des guerres qui sont modelées par les sciences et l'avancement des techniques. C'est-à-dire une vision très déterministe qui mesure l'impact stratégique des innovations sur les conflits. C'est-à-dire on a une guerre qui est, dans cette optique, qui est souvent vue comme modelée par les dynamiques internes aux disciplines. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre des physiciens. Et elle va être modelée par le rôle de la physique, comme souvent on a dénommé la Première Guerre mondiale comme la guerre des chimistes. Alors voilà ce premier modèle qui a été immédiatement critiqué et qui a produit constamment sa critique. Ça, il faut bien replonger ça dans la longue durée. L'usage des sciences et des techniques à la guerre a, en parallèle, suscité sa critique. Alors, je vous indique trois exemples pris vraiment dans des registres très différents. Ici, donc 16e siècle, le début de ces sciences modernes, le Pantagruel de Rabelais, qui oppose l'imprimerie à l'artillerie. Donc je le cite, je le lis avec vous. « L'imprimerie fut inventée par inspiration divine, comme à contre-fil l'artillerie par suggestion diabolique. » Donc ici, c'est l'idée dialectique, il y a ce qui libère, il y a une science qui libère l'homme, mais qui peut en même temps l'enchaîner, donc qui peut enchaîner cette science prométhéenne, enchaîner le Prométhée. Deuxième exemple, un tout autre bout du spectre de l'intervention intellectuelle, le Saint-Simon. Alors, ce n'est pas le Saint-Simon du temps de Louis XIV, c'est le Saint-Simon du début du XIXe siècle, qui était un polytechnicien, qui a été un penseur des rapports, on peut l'appeler déjà comme ça, des rapports entre sciences et société, et surtout qui prônait le pouvoir à attribuer aux savants comme conseiller des princes. Et là, à rebours, en quelque sorte, il s'adresse aux savants irresponsables ou aux savants impuissants. Quels moyens avez-vous de rétablir l'ordre dans la société humaine ? Donc, sous-entendu, vous, savants, toute l'Europe s'égorge. Que faites-vous pour arrêter cette boucherie ? Rien. Que dis-je ? C'est vous qui perfectionnez les moyens de destruction. C'est vous qui dirigez leur emploi. Dans toutes les armées, on vous voit à la tête de l'artillerie. C'est vous qui conduisez les travaux pour l'attaque des places. Que faites-vous, encore une fois, pour rétablir la paix ? Rien. Que pouvez-vous faire ? Rien. Et pourquoi ne peuvent-ils rien faire, ces pauvres savants ? Parce que, nous dit Saint-Simon, seule la connaissance de l'homme peut conduire à la découverte des moyens de concilier les intérêts des peuples et la science de la nature, la science expérimentale est désespérément coupée de la science de l'homme, selon Saint-Simon. Troisième exemple de cette critique, vous voyez qu'il ne faut pas attendre la bombe atomique pour produire une critique de l'intervention savante dans la guerre. Albert Robida, qui était un auteur, je ne sais pas si vous le connaissez, un auteur de science-fiction de la fin du XIXe siècle, contemporain de Jules Verne, hein, dans le même esprit, qui a écrit des romans d'anticipation et qui a dessiné des bandes dessinées. Et vous voyez qu'ici, sur cette planche, il montre la science, les savants bellicistes, la science pouvant être belliciste. Donc c'est la science qui invente les gaz asphyxiants ou la guerre bactériologique, hein, ici prévue dans ce corps médical offensif ayant préparé un réservoir à Mias. Donc voilà tout cet ensemble de représentations qui me semble un peu toutes issues de cette idée d'une science prométhéenne. Deuxième type de représentation, bon, le propos invite toujours un peu à être schématique, hein, c'est peut-être le jeu, alors ça a le mérite d'être peut-être un peu plus clair, mais en même temps forcément de se livrer à quelques, sans doute, exagérations. Deuxième type de représentation sont la science vue comme indéfectiblement liée au progrès. Des représentations progressistes de la science, c'est-à-dire la science et progrès, qui peut jouer pour le progrès ou éventuellement contre, hein, mais qui est dans un système du monde qui est vu comme interprétable par l'avancement de la connaissance, le progrès. Alors ça, je pense que vous le savez bien, c'est théorisé par les Lumières et un auteur entre tous, Condorcet, à la fin du XVIIIe siècle, en pleine Révolution française, 1794, écrit un texte qui est devenu un peu l'emblème de ce progressisme, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, donc Condorcet, qui propose une vision de l'histoire qui est fondée sur une progression continue vers un but déterminé, et ce but, c'est le progrès, qui est une marche en avant de l'humanité vers la lumière, qui est guidée par la raison et qui sort triomphante de ses luttes contre ce qui l'empêche, c'est-à-dire la religion pour les Lumières, hein, et puis le despotisme, les formes de les obstacles religieux, les obstacles politiques. Donc il y a cette perfectibilité indéfinie de l'esprit humain, nous dit Condorcet, qui va, et c'est ça le plus important dans mon propos, qui fonde vraiment cette solidarité entre différents types de progrès. Le progrès social ne va pas sans le progrès politique, qui ne va pas lui-même sans le progrès moral, et tout ça est fondé sur l'avancement, un avancement des progrès des savoirs. Progrès des savoirs vaut et ne peut que marcher la main dans la main avec progrès de la morale. Et ce progressisme fondamental de la science, il va vraiment s'épanouir au XIXe siècle, hein, dans le cadre de toutes sortes d'auteurs, de l'avenir de la science de Renan, d'Auguste Comte, du scientisme, hein, l'idée que la science sera quand même au fondement d'un avenir radieux et d'un progrès de la civilisation, quasiment illimité. Hein. La science et le progrès marchent ensemble. Alors, ça produit, là encore, un certain nombre d'images. Ça produit une image de la science comme un système de savoir qui vise à dévoiler la nature. Hein. C'est un idéal d'une science pure, une science désintéressée. Les savoirs existent, il s'agit, la science a pour but de dévoiler la nature, comme dans cette allégorie féminine très, très classique de la science. Autre vision progressiste, c'est la science qui éclaire la civilisation. C'est la couverture d'un livre d'un célèbre vulgarisateur du XIXe siècle, Louis Figuier, Les mystères de la science. La science éclaire la civilisation et la science se diffuse en même temps dans toutes les couches sociales. C'est tout le travail des vulgarisateurs. Et enfin, la science est civilisatrice parce que, bon, elle est pure, elle est désintéressée. Néanmoins, elle peut produire des applications qui sont utiles au progrès. C'est une science bienfaitrice de l'humanité. Et là, sans doute, l'image de Pasteur est la plus prégnante au XIXe siècle. C'est l'icône même. Marie Curie, dans une certaine mesure, sera aussi portée sur les mêmes fondements. Donc l'idée d'une science pure et autonome, qui est au-dessus de la mêlée, hein, et qui, lorsqu'elle s'implique, finalement, elle produit des applications bienfaitrices. Alors, dans notre domaine des liens entre science et guerre, ça va produire une vision, des interprétations qui sont plutôt sur le mode de la parenthèse, c'est-à-dire les savants sont à leur activité, parfois ils sont interrompus par des guerres, parfois dévoyés par elles, et ensuite ils reviennent au cours normal de la science. C'est-à-dire que la science est, dans la vision progressiste, hein, toujours déplacée par rapport à ce qui est sa vraie vocation. Et ce type d'interprétation, vous allez retrouver très fréquemment chez les savants eux-mêmes, et notamment ceux qui participent à l'effort de guerre, et qui vont se situer souvent dans le registre du déni, de la dénégation, ou dans le registre moral. C'est donc ce registre moral qui est accolé hein, par les Lumières au registre de la progression des savoirs. Donc, ils vont renier en quelque sorte leur engagement ou jeter un regard très critique sur leur propre engagement. C'est le fameux mot d'Oppenheimer, hein, le directeur du projet Manhattan à Los Alamos, c'est la science a connu le péché. Donc le péché, c'est évidemment ce registre, mais vous pouvez le retrouver chez nombre de savants en la plus longue durée. Je pense par exemple à Paul Langevin, physicien d'importance, hein, qui a lui-même contribué à la production d'armes nouvelles pendant la Première Guerre mondiale. Il a travaillé beaucoup avec la marine, il a travaillé au repérage des batteries ennemies, avec des détecteurs à ultrasons, donc pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait des travaux sur les tuyères des canons, sur l'explosion des poudres hein, en 1916. Et il a toujours été pacifiste, il ne s'est jamais départi de son pacifisme, mais après-guerre, il était très militant pacifiste, en illustrant hein, tous les dangers, les effroyables dangers, disait-il, hein, que représente la préparation de guerre scientifique nouvelle, la prostitution de la science à la guerre. Ça, c'est le grand mot de Langevin. Et pour reprendre encore un autre exemple, celui d'Einstein. Einstein, qui est lui aussi cette icône du scientifique engagé contre la guerre, hein, qui est militant du désarmement, qui est viscéralement pacifiste, qui dit... porter ce petit livre sans publicité, la collection du Monde, là, qui réédite des textes classiques, qui a réédité notamment le « Comment je vois le monde » d'Einstein, du début des années 50. Il dit « La guerre est la chose la plus méprisable, je préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie ». Alors de fait, pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas participé du tout à l'effort de guerre, il a été un de ces intellectuels allemands en rupture vraiment avec... Le militarisme allemand, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il a une position plus accommodante, hein, et d'ailleurs qui justifie dans « Comment je vois le monde » tout en limitant son action. Il dit « Je n'ai fait qu'envoyer une lettre à Roosevelt », mais il justifie que cet effort pour la bombe était légitimé par la lutte contre le nazisme. Alors, là, on se trouve souvent dans le déni et dans l'idée d'une guerre parenthèse qu'il convient de refermer une fois les choses terminées. Et cette vision progressiste, elle a aussi, elle a subi sa propre critique, et une critique notamment après la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, où la bombe ayant été un peu l'apogée de cette idée du dévoiement, finalement, de la science. Et donc, elle va produire une critique qui va, en quelque sorte, associer la critique de la technique à la critique, à la dénonciation de ce qu'on appellera dans ces années 60-70 le complexe militaro-industriel. Donc on combat le militarisme et en même temps on critique les techniques dans leurs liens compliqués hein, avec les possibilités de choix démocratiques. Ce moment critique, qu'on peut voir déjà illustré dans les années 30 hein, avec un fameux livre de Lewis Mumford qui s'appelle Technique et civilisation, qui fait du facteur militaire un élément clé, je cite, hein, du fossé creusé entre mécanisation et humanisation. Donc ça va constituer un fondement de cette dénonciation du complexe militaro-industriel et de ce découplage possible entre la science et la mécanisation, qui n'est plus un humanisme, comme les thèses précédentes tendaient à l'éprouver. Donc au bilan un peu de ces visions, finalement, des représentations contrastées du rôle des sciences en société. Alors, science prométhéenne, science progressiste. Alors, d'un côté, une science qui est destinée à faire la guerre et en lien avec les pouvoirs. De l'autre côté, une science pure, bienfaitrice, désintéressée, que l'on détourne de son cours normal pour faire la guerre. Alors, deux idées qui ne sont pas forcément contradictoires, qui sont en tension certainement, mais pas forcément contradictoires l'une à l'autre. Mais surtout, ce sont des représentations qui me semblent faire écran hein, à la compréhension vraiment d'un lien historique entre les sciences et la guerre. Alors, l'histoire des sciences, évidemment, elle essaye de se départir de ces points de vue. Alors, si on dit idéologique, c'est péjoratif. Je pense que ce sont des représentations qui irriguent hein, la façon dont les sociétés contemporaines ont de voir les sciences. Pas forcément faire de l'idéologie, mais de fait, elles nous embarrassent quand même pour essayer d'arriver à notre objet. Alors, j'en viens à précisément comment l'histoire des sciences, elle, a essayé de poser des questions en naviguant parmi ces images déjà un peu formatées par les représentations qu'on a évoquées. Alors, de fait, alors là, peut-être on s'opposera à ces représentations, hein, les sciences ont toujours été intrinsèquement liées aux affaires militaires, puisque elles, c'est la vision de la science prométhéenne, hein, elles engendrent des techniques qui permettent d'agir, si bien que tous les pouvoirs militaires, pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, n'ont jamais cessé de s'intéresser aux sciences dans cet esprit. Alors, l'histoire des sciences s'intéresse à la manière dont des disciplines se mobilisent sont mobilisées dans l'effort militaire. Quelles sciences et puis comment ces disciplines se recomposent finalement au service de la guerre. Alors, on peut voir là une évolution. Si on regarde les débuts de l'époque moderne, 15e, 16e siècle, c'est ce que les académies appellent les mathématiques mixtes, donc sciences de la Terre et astronomie, cartographie, calcul de longitude, construction d'instruments mathématiques, relevé de terrain, technique d'artillerie. Hein. L'art militaire tel qu'il se développe à la fin du XVe siècle va exiger une maîtrise de la mesure et un recours constant à la géométrie, à l'arithmétique, parce qu'il s'agit de mettre des troupes de plus en plus nombreuses en ordre de bataille. Il s'agit de faire de la balistique. Il s'agit de construire des vaisseaux, hein, la construction navale. Il s'agit de tenir des sièges et surtout de fortifier les places. Et pour tout cela, ces mathématiques mixtes sont les ressources les plus fondamentales. Dans la période suivante, hein, 18e, 20e siècle,
Là, on va recourir vraiment aux sciences de l'ingénieur, la mécanique, mais aussi chimie, physique, donc, et les génies, les divers génies attachés à ces sciences, électriques, électroniques, etc. Et puis, fin XXe siècle, on voit encore une transformation avec des outils mathématiques et les modélisations qui sont couplées aux ordinateurs. Alors ça, c'est pour ces sciences en relation avec les mathématiques. Pour les sciences de terrain, le lien est évidemment aussi très étroit. Du XVe jusqu'au XXe siècle, la science prend part au voyage de découverte. Elle contribue à la constitution des empires coloniaux, voire elle contribue aussi à la justifier, hein, ce qu'on a appelé la mission civilisatrice des sciences occidentales, et à laquelle participent la géodésie, la botanique, la géographie, les sciences de l'inventaire, inventaire de la nature, inventaire humain. Et là aussi, il s'agit de fabriquer des cartes, de faciliter la navigation, de concevoir la défense des places fortes, de connaître les indigènes, de soigner, bien entendu, mais aussi en laboratoire, de rendre des phénomènes simples et manipulables, de les transformer et d'en comprendre les mécanismes. Voilà pour cet ensemble de disciplines, hein, comment les disciplines sont mobilisées dans l'effort militaire. L'histoire des sciences se demande aussi quelles sont les relations qui sont entretenues entre les sciences fondamentales et les techniques. Là, je passe indifféremment du terme technique au terme science, hein, comme si tout cela ne formait qu'un. Et effectivement, dans ce lien science et guerre, l'instrumentation, les objets techniques sont essentiels et souvent, ils constituent le point de départ de nouvelles disciplines. Ce sont souvent les mêmes savants qui sont à l'œuvre dans la recherche pure, dans la recherche fondamentale, et dans les objets techniques, avec des mouvements d'aller-retour. Par exemple, un exemple qui est développé par Patrice Brett, que j'ai cité dans la bibliographie, hein, dans ses travaux, un grand spécialiste des relations sciences et guerres sur la période du 18e, 19e siècle. On peut prendre donc cet exemple de l'aérostation, donc les montgolfières. C'est une technologie civile qui est naissante à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1780, les travaux des frères montgolfiers. Mais cette technologie civile va trouver un développement militaire inattendu avec la Révolution française, dans le but de faire des ballons captifs destinés à l'observation du champ de bataille. Alors, le problème technique qui se proposait à cette époque, c'est fournir en hydrogène ces ballons, alors que la méthode usuelle pour produire l'hydrogène, là, alors je ne suis pas une spécialiste de ces questions, donc je parle sous votre contrôle, peut-être pour certains d'entre vous, la méthode était l'emploi de l'acide sulfurique. Or, la fabrication de l'acide sulfurique consommait beaucoup de salpêtre, salpêtre lui-même requis dans la fabrication des poudres, essentielles aux guerres révolutionnaires. Donc le problème, c'est comment trouver une méthode de production en masse, en tout cas à une autre échelle que de l'hydrogène. Et on va charger une commission en septembre 1793 hein, de diriger des expériences pour permettre ce transfert à échelle industrielle. Alors de quoi ? Eh bien, et c'est là que je reviens à ma recherche fondamentale, de l'expérience, alors vraiment expérimentale au sens de recherche fondamentale, de Lavoisier et Meunier, qui dans les années 80, 1784, hein, s'était livré à une expérience de décomposition de l'eau en laboratoire, en tout cas ce qu'on n'appelle pas encore vraiment le laboratoire, mais ainsi dans un domaine d'administration de la preuve scientifique tout à fait spécifique. Et donc on va industrialiser, on va immédiatement faire passer aux applications, mais en changeant d'objectif et en changeant de nature, hein, cette expérience de Lavoisier et Meunier pour fabriquer à grande échelle cet hydrogène nécessaire au ballon et auquel participent les savants chimistes Berthollet, Guiton de Morveau, le mathématicien Monge et Lavoisier lui-même, avant avant sa mort. Hein. Vous savez que Lavoisier, lui-même, qui a participé à l'effort pourtant de guerre révolutionnaire, a été décapité par cette même révolution en 1794. Alors, voilà un exemple. Et puis, on peut voir le mouvement retour, hein, c'est-à-dire là, des sciences fondamentales à la technique pour l'application sur le champ de bataille. Et en retour, pour changer d'époque, le radar, l'objet radar, qui est hérité de la Seconde Guerre mondiale, produit par la Seconde Guerre mondiale, et qui va permettre ensuite radioastronomie, études des résonances nucléaires, donc physique des hautes énergies, etc. Donc changement de sphère, hein, d'une technique du civil vers le militaire, et aussi donc cette circulation de la recherche fondamentale vers les applications. Autre question, enfin, parmi quelques autres, c'est que pose l'histoire des sciences, c'est le lien au politique. Il est évident, il est constant. Quelles sont les médiations, hein, qui rendent possible l'intervention savante? Alors, ce peut être des institutions, ce peut être des formes de pouvoir. Et tout à l'heure, il était question de Galilée. On est aussi déjà en plein dans le sujet. Hein, et d'ailleurs, notre conférencier a évoqué aussi sa participation à des techniques qui vont être aussi exploitées sur le champ de bataille. Donc des médiations, et aussi, évidemment, liées au marché, au système économique. Alors, si je garde mon exemple sur l'aérostation, donc pour créer ce ballon captif d'observation, c'est bien un savant qui est à l'origine de cette démarche, c'est Guiton de Morvaux, chimiste, qui propose, disons, de son propre chef, au comité de salut public, hein, en juillet 1793, qui fait deux rapports en proposant un usage militaire du ballon, qui va susciter une décision politique, avec un transfert vers la technique, puisqu'on va créer à cette fin un centre d'épreuve, donc un centre d'essai à Meudon, le centre d'épreuve aérostatique, et un système qui va aboutir très rapidement, avec une sorte de raccourcissement, hein, du temps nécessaire à ce développement, puisque dès la bataille de Fleurus, de juin 1794, donc moins d'un an après, les premiers ballons captifs sont là, portant deux observateurs sur le champ de bataille, dans ce qui a été une victoire décisive pour la France. Alors, on pourrait multiplier finalement les exemples à toutes les époques. On peut penser à l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui emmène, vous le savez, dans ses soutes, hein, tout un très grand nombre de savants, et qui forme la commission des sciences et des arts, donc pour favoriser ce travail scientifique en lien avec ce qui est quand même une conquête militaire. Ou par exemple les commissions qui ont diverses appellations, mais en gros qui sont des commissions des inventions intéressant à la défense nationale, qui se développent sous la Troisième République et en continuité ensuite avec la Première Guerre mondiale. Donc voilà pour ces questions, et je finirai sur cette première partie par la question aussi de la périodisation et de l'historicité finalement de ce lien entre science et guerre. Alors, pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est davantage le contemporain, enfin, sur lequel j'ai une petite compétence. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment cette recherche militaire moderne, telle qu'on la désigne aujourd'hui, finalement, s'est formée. Et là aussi, les historiens des sciences ont beaucoup travaillé sur cette question des basculements, de la formalisation d'une recherche militaire. Alors, je renvoie encore aux travaux de Patrice Brett, l'État, l'armée et la science, hein, l'invention de la recherche publique en France, qui mettent en valeur donc le lien entre science mais guerre moderne. Et qui, selon lui, se développe à la fin du XVIIIe siècle, hein, dans une période qui est en gros entre 1760, on est encore à la fin de l'Ancien Régime, et puis incluant les donc, guerres révolutionnaires et les guerres impériales, hein, qui est un premier moment de basculement. Alors, il met en valeur, ce que je vous ai indiqué sur la diapo, un certain nombre de caractères qui, finalement, seraient un peu la matrice de ce lien entre science et guerre, tel qu'il se développe dans la période contemporaine. Alors, je passe rapidement, mais juste quelques mots sur chacun d'entre eux. Premier caractère, c'est l'idée qu'il y a, pour que science et guerre marchent ensemble, il faut une initiative de l'État. Et c'est essentiellement le gouvernement révolutionnaire, à partir de 1793, qui va le fournir. Alors, il y a déjà, sous la monarchie, sous les ministères Choiseul ou Turgot, des essais pour promouvoir des systèmes d'armes modernes. Mais il y a encore un lien avec un fonctionnement personnel du pouvoir, un clientélisme qui ne donne pas encore véritablement la texture de ce que sera la décision politique d'après la Révolution française. Donc, il y a une rupture politique là qui induit la possibilité qu'il y ait une décision politique et administrative. Donc, l'aérostation, c'est le comité de salut public qui décide. Guiton de Morvaux suscite, mais c'est le comité de salut public qui met en œuvre vraiment la recherche. Alors, deuxième caractère, c'est le caractère de la rationalisation. Une rationalisation qui touche l'objet lui-même. L'objet, c'est le canon ou le fusil, c'est le vaisseau, c'est le salpêtre, les cartes, les statistiques. Donc on va être tenté de rationaliser, de standardiser ces objets, mais aussi de rationaliser les procédures de production de ces objets, c'est-à-dire les parties qu'ils composent, la nature des matériaux, la conception des instruments de mesure qui permettent de le contrôler, etc. La division du travail qui va séparer les différentes tâches. Donc une rationalité technique qui est relative à la conception, à la fabrication et même à l'utilisation de l'objet, au geste par exemple de l'artilleur qui va pouvoir le mettre en œuvre. Troisième caractère, c'est ce que Patrice Brett appelle l'institutionnalisation de l'imagination, c'est-à-dire ce qui devient au cœur du système, c'est l'innovation, et une innovation la plus radicale possible. L'idée est qu'il faut toujours explorer des voies nouvelles, ça sera le cas pour la guerre des gaz, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, parce que les savants pensent toujours que le pouvoir militaire, en gros, est incapable de s'adapter. Il est toujours prisonnier de tactiques traditionnelles. Donc, il vaut mieux carrément faire une rupture dans le système d'armes pour mettre le militaire, finalement, en mesure de changer son schéma stratégique préétabli. Quatrième caractère, j'en ai déjà parlé, c'est la science au service de la technique, c'est-à-dire la volonté d'exploiter les connaissances scientifiques à des fins militaires plus ou moins directes, et avec l'idée de ce raccourcissement du temps entre ce qui est l'effort scientifique et la production directe de l'application technique, et à laquelle participent des savants. On en a cité déjà un certain nombre pour la Révolution, mais aussi Laplace, mais aussi Gay-Lussac, parmi bien d'autres. Enfin, cinquième caractère, c'est là aussi une institutionnalisation du lien entre recherche et formation, c'est-à-dire faire des écoles militaires, d'application militaire, mais où il y aura de la recherche, où il y aura des laboratoires, l'exemple est type étant l'école polytechnique 1794, mais aussi toutes sortes d'écoles d'application pour l'aérostation, pour la pyrotechnie militaire ou autres, qui auront pour but vraiment de développer la recherche en même temps que d'enseigner. Enfin, dernier moment dans cette vision un peu panoramique, c'est le dernier moment de basculement, c'est une sorte de mise en pratique de ce qui affecte ici le savant, en quelque sorte, au profit du militaire. C'est véritablement la transformation qui va avoir lieu en lien avec les guerres modernes. Les mutations de la guerre elle-même, qui sont aussi en conséquence de la recherche militaire. Alors, c'est vraiment la seconde moitié du XIXe siècle qui met en valeur ce changement, avec l'idée d'une industrialisation de la guerre, qui commence après la guerre de Crimée, la guerre de sécession, et qui va ensuite véritablement trouver toute son ampleur à la fin du XIXe siècle, disons dans une période qui va jusqu'à la guerre froide et en l'incluant. C'est l'idée que la science passe au cœur de la construction des économies, des États, et aussi au cœur de la guerre quasi permanente que se livrent les nations, en tout cas en Europe. Donc là, les sciences les plus fondamentales, la physique par exemple, deviennent directement pertinentes pour le développement industriel et économique, donc pour la radio, pour la télégraphie sous-marine, pour la chimie organique, etc., mais aussi pour les politiques de défense, mais aussi pour la gestion des populations. Alors c'est ce que Edgerton appelle, je voulais citer dans la bibliographie, hein, les sciences nationalisées, en quelque sorte, les sciences qui passent au cœur des constructions nationales, hein, qui sont intégrées au cœur de l'État-nation, en même temps qu'au cœur de l'innovation et du développement technique et économique. Alors ça, vous en voulez en savoir plus sur cette question, c'est tout à fait bien explicité et développé dans le livre collectif d'Ami Dahan et de Dominique Pestre, « Les sciences pour la guerre », 1940-1960, hein, ils essayent de systématiser à partir de ce moment, Seconde Guerre mondiale, guerre froide, ce qui est l'effort de toute cette, d'un siècle quasiment, de modernisation de la guerre et de l'intervention savante qui est à son profit. Alors j'en viens à ma deuxième partie, je sais que j'ai déjà épuisé une bonne partie de mon crédit temps, mais je vous rassure, mais moi je sais. Donc la deuxième partie sera un petit survol, alors là aussi très, très rapide, mais un peu pour voir finalement comment tout cela peut s'illustrer donc à travers le cas de la Première Guerre mondiale. Et donc là encore, je m'en tiendrai à cinq caractères qui s'appliquent vraiment à cette expérience du début du XXe siècle. Alors, premier caractère, ce problème de la modernité, c'est-à-dire les sciences au service de la guerre moderne. Alors, sans aucun doute, et là je reviens à notre histoire de représentation, sans aucun doute, la Première Guerre mondiale, c'est la représentation d'une guerre moderne au sens d'une guerre industrielle, d'une guerre des machines, des techniques et une guerre des sciences. Et elle a été vécue comme cela par les contemporains, hein, véritablement, où le facteur humain n'est plus qu'un jouet impuissant de ce qui lui arrive, hein, des déluges de feu de l'artillerie ou des nuées de gaz. Alors, les représentations picturales sont souvent un bon symptôme pour décrypter ces représentations. Ici, c'est un tableau de Severini, qui a été présenté, était un peintre futuriste, ce mouvement qu'on appelle le futurisme italien, et qui a fait sa première exposition pendant la Première Guerre mondiale, et qui s'appelle la première exposition d'art plastique de la guerre, l'art de la guerre, en janvier 1916. Donc, et là, c'est un tableau qui s'appelle « Le canon en action », donc de Gino Severini. Donc vous voyez l'artilleur au centre qui est réduit finalement au rôle de serviteur du héros. Et le héros, c'est la machine, le héros mécanique, hein, qui est le canon central et qui symbolise cette puissance de feu inédite, puisque la Première Guerre mondiale est la première guerre d'après les révolutions industrielles du XIXe siècle. En tout cas, la première de cette échelle. Il y a eu des conflits locaux, mais c'est la première guerre industrielle. Et là encore, un autre tableau de Severini, malheureusement noir et blanc, La guerre, 1915. Donc vous voyez en haut le mot d'ordre d'anti-humanisme, mais un anti-humanisme sous les auspices d'un effort produit par les sciences, c'est-à-dire par l'électricité, le pylône à haute tension, par les mathématiques, vous voyez les courbes, les équations à gauche, par la chimie, la classification des alcools et des acides à droite, la production industrielle, l'usine d'armement. Donc c'est vraiment la perception, et je le répète, des contemporains, hein, de, comme dit Painlevé qui est un mathématicien mais qui devient ministre de la guerre, hein, qui est une association quand même parlante, qui devient ministre de la guerre pendant la guerre, et qui dit c'est une guerre de science et de machine, une lutte de science et de machine. Et vous avez, alors on pourrait multiplier les citations, c'est la guerre tire ses moyens des progrès des sciences. Et on le voit aussi enfin dans toute cette imagerie qu'on trouve chez l'écrivain allemand Jünger, Ernst Jünger, qui est lui-même combattant, sur la guerre de matériel, hein, dont il dit que c'est le reflet fidèle de l'âme de la guerre scientifique. Et donc c'est cette image que vous voyez ici dans ce tableau de Fernand Léger, à la partie de carte, qui est l'idée de la mécanisation totale du champ de bataille et du guerrier lui-même. Alors, une guerre de science et de machine, mais en même temps, évidemment, une guerre, enfin, je dis évidemment parce que c'est aussi l'image absolument classique, incontournable de la Première Guerre mondiale, une guerre de régression civilisatrice et régression des conditions même du combat. C'est-à-dire que la science moderne étant évidemment en grand hiatus avec cette impuissance du combat, évidemment la guerre des tranchées hein, et une guerre qui n'a plus de normes, la guerre de la régression sanitaire. Alors ici, bon, la boue des tranchées, sont presque des clichés. Hein, la régression sanitaire ici avec les blessés qui attendent les ambulances, donc là les progrès médicaux, hein, ou le simple pansement dont le soldat est porteur pour faire face à ses blessures, ce qui est évidemment loin de l'avancement du progrès médical. Et ces deux images, une guerre moderne et scientifique, et puis une guerre du plus grand dénuement, elles trouvent aussi écho dans finalement ces deux visages qui donnent sens peut-être à l'impact des sciences et des techniques sur cette déshumanisation que produit la Grande Guerre. La gueule cassée, ici c'est une eau forte d'un expressionniste allemand, Otto Dix, hein, qui montre qui représente cette gravité des blessures infligées par les éclats d'obus, donc la force, la puissance de feu de l'artillerie. Et puis, autre symbole, j'en ai déjà dit un mot, hein, le gazé, aussi symbole de déshumanisation et qui est pur produit de la chimie. Donc voilà pour les représentations. Maintenant, pour revenir un peu à les questions que l'on a posées jusqu'ici, la Première Guerre mondiale met en œuvre des sciences qui ont été faites pour mener la guerre. C'est un conflit de longue durée, vous le savez, de 4 ans et demi, qui va mettre très spectaculairement en valeur, aux yeux des contemporains, qu'il y a des mutations techniques radicales, puisque on sort de la guerre dans un environnement technique très différent de l'entrée en guerre. C'est l'emploi des sous-marins, surtout allemands, ça a été un grand succès allemand, les sous-marins. Alors ici, vous voyez, devine le sous-marin, mais c'est donc les sous-marins qui essayent de briser le blocus et qui conduisent à des grandes catastrophes meurtrières comme le naufrage du Lusitania, donc qui va beaucoup frapper les opinions publiques américaines en l'occurrence. Donc ce sont des armes nouvelles qui sont très souvent associées à la déshumanisation. Le sous-marin est meurtrier. De même que l'avion, ici représenté, encore un tableau futuriste, l'aéroplane dans un paysage urbain, avec l'idée que déjà les avions sont employés au bombardement de populations civiles. Ou ici, alors là, un objet décalé, hein, c'est un objet, un bibelot, qui est un char, un tank, donc destiné à trouer le front, et qui est aussi une arme nouvelle, vraiment, de la Première Guerre mondiale, hein, qui... Là, il s'agit d'un tank britannique dont les premiers vont être utilisés dans la bataille de la Somme. Donc, par tout ça, on voit que la technique façonne la guerre. Alors, ce sont des techniques qui, pour certaines, sont en œuvre avant la guerre, un sous-marin ou l'avion, mais dont la guerre va généraliser l'usage. Et c'est en ce sens qu'on va appeler souvent la Première Guerre mondiale. C'est la formule de Lloyd George. En Angleterre, c'est la guerre des ingénieurs. C'est la guerre de l'efficacité des armes modernes et du changement d'échelle de ces innovations. Donc ce sont des innovations qui sont bien produites en direct au moment de la guerre, mais en même temps, les historiens des sciences ont essayé de nuancer l'idée qu'il y aurait eu une révolution scientifique de guerre, comme peut-être il y en a eu dans la Seconde Guerre mondiale. Ici, on dit qu'il y a eu des changements manifestes, mais sans doute ils n'ont pas eu de poids décisif dans la victoire. Ce conflit repose finalement sur des armes qui sont largement déjà en œuvre lors du déclenchement de la guerre. Et donc ce conflit est surtout lié à l'immensité de l'effort de production industrielle plutôt qu'à des ruptures technologiques. Et là, le meilleur exemple, je reviens encore une fois au gaz, c'est une innovation qui terrifia les combattants, donc qui marque énormément les représentations, hein, mais et dont on attendait, les états-majors ont espéré que cette guerre permettrait une rupture stratégique en interrompant, dès leur premier usage, en 1915 par les Allemands, en interrompant les combats quasiment par l'effet hein, de sidération qu'elle provoquerait. Alors, il n'en a rien été. Et en fait, au lieu d'être l'arme de la rupture stratégique, les gaz ont été plutôt une arme de la guerre d'usure, hein, d'un processus de totalisation, parce qu'on a produit au cours de la guerre des gaz de plus en plus toxiques, et on a chargé de plus en plus d'obus, parce que d'abord on a fait éclater des bonbonnes avec des nuées dérivantes de chlore, mais au fur et à mesure on a donc accentué par innovation technique la toxicité des produits, et puis la généralisation de leur usage sur l'ensemble du front par les obus, par donc de nouveaux vecteurs. Mais au lieu d'être une arme de rupture stratégique, c'est finalement devenu donc une arme de la guerre d'usure et de l'épouvante hein, que l'arme provoquait, puisqu'on estime qu'elle a sans doute été à l'origine de 3% à peu près des blessés de la Première Guerre mondiale, ce qui est évidemment beaucoup, mais peu par rapport au processus d'ensemble. Donc là, juste pour vous montrer l'évolution des produits et du fait qu'il va falloir trouver donc, des parades de protection et de détection au fur et à mesure des innovations qui sont accommodées en direct sur le champ de bataille. Je passe à mon troisième point qui peut être assez rapide, c'est la question de la mobilisation des savants. On l'a déjà un petit peu envisagé pour la Révolution. Hein. Mais là, c'est l'idée, et c'est peut-être la première fois aussi que c'est systématisé, institutionnalisé. Les armées ne vont pas... Les nations ne combattent pas seulement avec leur armée, elles vont combattre avec leur cerveau. C'est souvent la formule qui est employée. Hein. Ce sont les valeurs scientifiques qui vont consacrer la supériorité d'une nation sur l'autre. Et un grand débat public va s'élever en 1915 autour de la mobilisation des compétences. Pour dire, il est scandaleux que les scientifiques soient mobilisés comme de simples combattants, alors qu'ils seraient bien plus utiles à la nation dans leur laboratoire au profit de l'effort de guerre. Et il va falloir finalement du temps pour faire passer cette idée auprès des états-majors, qui en restent à une image très égalitariste de la mobilisation combattante, mais qui vont, à partir de 1915, hein, basculer dans les différents pays au profit d'une mobilisation spécifique des compétences. Ici, c'est un exemple de l'effort radiologique hein, au service des blessés de guerre, hein, les appareils à rayons X, notamment que Marie Curie, c'est une image presque d'Épinal, transportait dans sa voiture sur le front hein, au profit des ambulances de première ligne. Et puis, donc, c'est ce qu'on a pu appeler, ce que Barrès, écrivain de droite, appelait le miracle des laboratoires, hein, c'est-à-dire la mise en ordre de bataille des compétences au sein des laboratoires. Alors, c'est le problème de la mobilisation des hommes. Langevin dit « je serais bien plus utile dans mon laboratoire de physique plutôt que comme sergent de réserve ». Mais c'est aussi la question de l'intégration des scientifiques à l'appareil militaire. C'est encore le cas de Langevin qui va être vraiment intégré dans le cadre de l'appareil de décision de la marine au sein de son laboratoire de Toulon. Et là, on retrouve cette espèce de vieil antagonisme très, très durable, c'est-à-dire les militaires sont réputés méfiants vis-à-vis des scientifiques, qui sont des civils, et qu'ils rechignent véritablement à intégrer dans des processus de décision stratégique. Et les savants vont souvent revendiquer hein, une part entière à la recherche, en particulier à la recherche opérationnelle. Alors, cette vue a été souvent un peu nuancée, c'est-à-dire qu'on va dire, en fait, dès la Première Guerre mondiale, il ne faut pas nous dire que les savants n'ont pas été employés par les militaires. De fait, il y a vraiment quand même déjà fortement une collaboration entre des agences de gouvernement, des militaires et des universités au service de cet effort de guerre, c'est-à-dire un peu le début de ce que l'on verra en grand dans le projet Manhattan. Quatrième point, c'est l'avant-dernier point, l'organisation, la production et le management, comme on dit maintenant, de cette production scientifique. C'est une idée que j'ai déjà évoquée, hein, donc je peux redire simplement brièvement. Les évolutions tiennent beaucoup à la fonction organisatrice, hein, vraiment, que les sciences et les techniques sur le champ de bataille exigent. Donc, les sciences quittent le laboratoire, les innovations, mais il faut qu'elles soient partie prenante d'un système qui les met en ordre de marche. Hein. Et donc, ça va être vraiment une de ces mutations essentielles, intégrer à une nouvelle échelle des fonctions scientifiques, des fonctions industrielles, des fonctions militaires, et parvenir à faire ce management, à diriger tout ça dans le système de commandement qui est déjà très complexe que la guerre engendre. Alors, pour ne prendre qu'un exemple, je passe sur ces images classiques. Bon, l'exemple type de l'intégration science, guerre et production industrielle, c'est la guerre des gaz, surtout du côté allemand. Fritz Haber, le père, en quelque sorte, de la guerre des gaz, hein, l'origine notamment des... Alors, peut-être que les Français ont tiré d'abord des cartouches suffocantes préparées dès 1914, mais la première grande opération de gaz au combat, c'est les nuées de chlore donc auxquelles... Fritz Haber a présidé à leur explosion. Alors, en Allemagne, donc, toute cette organisation repose vraiment sur une organisation bicéphale, c'est-à-dire un pôle scientifique dirigé par Haber autour d'institutions existantes avant-guerre, hein, notamment le Kaiser Wilhelm Institute, avec des scientifiques très renommés, dont d'abord Haber, mais toute une série de scientifiques, et 10 départements de recherche totalement convertis à l'effort de guerre. Et puis, en parallèle, un immense effort de production industrielle auquel participent toutes les grandes firmes chimiques allemandes, Bayer, la BASF, IG Farben notamment, Hoechst, etc., au service de cet effort de guerre. Et ce qui est intéressant avec Haber, et cet exemple allemand, c'est que cette intégration, elle fonctionne, et elle fonctionne aussi sur le plan militaire, puisqu'on voit ici celui qui tend le bras, c'est Haber en uniforme, puisqu'il a obtenu un grade militaire du haut commandement, et qu'il règne véritablement maître exclusif sur cette organisation intégrée, hein, fonction scientifique militaire, et qui enrôle l'effort de production industrielle. Alors, enfin... je ne pourrais pas terminer sans dire un mot de la guerre du droit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter le rôle des sciences dans la guerre à leur production d'innovations techniques, comme on a déjà beaucoup insisté sur ce point, mais il faut bien penser aussi à l'autorité que confère la science, qui a pu être cruciale, hein, dans une guerre que les deux camps se représentait comme une guerre dont l'enjeu est la civilisation. C'est-à-dire qu'on a souvent cette image pour la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est une guerre qui engage des systèmes, des représentations du monde, mais la Première Guerre mondiale, les belligérants ont absolument conscience de se battre pour le droit dans l'un et l'autre camp, les uns pour la culture, les autres pour la civilisation, mais pour des valeurs tout à fait universalistes. Or, la science, depuis le XIXe siècle, avait un potentiel, un capital symbolique, comme disent certains, énorme. Donc, on pouvait mobiliser, hein, le prestige des savants au service d'une vision de la guerre. Et dans la Première Guerre mondiale, il y a un texte entre tous très connu, qui est l'appel des 93. Il s'agit de 93 savants, mais aussi intellectuels et aussi artistes allemands, qui est une pétition signée dès l'entrée en guerre, une pétition An die Kulturwelt, donc c'est l'appel pour la culture. C'est traduit par différents, selon différents, avec différents termes, hein, civilisation, culture, qui est signée des très grands scientifiques, de Ehrlich, de Haeckel, de Röntgen, de Haber, évidemment, et qui va provoquer l'idée qu'il y a une communauté scientifique allemande. Et donc, que dit ce texte? Ce texte est dans la protestation. Vous voyez, j'ai mis juste « il n'est pas vrai que, il n'est pas vrai que, il n'est pas vrai que ». C'est un leitmotiv que donne ce texte et qui proteste contre les accusations proférées par les alliés, par la France, par la Grande-Bretagne, contre le militarisme allemand et contre les atrocités que créerait l'Allemagne, accusée d'être responsable de l'entrée en guerre. Alors, les savants allemands, en signant collectivement cette pétition, font émerger l'idée qu'il y a une entité nationale savante à laquelle va s'opposer, alors exactement dans les camps adverses, eh bien, des entités nationales symétriques. Et les savants français, les savants anglais, etc., vont signer des pétitions. Et vont signer des pétitions dans lesquelles ils vont s'attaquer aux autres savants ennemis, mais en les accusant, au nom de la science, d'être dévoyés, d'être caporalisés, et finalement, ils vont se placer dans la sphère de la morale, c'est-à-dire qu'on dénonce des crimes, on dénonce pas la production d'innovation dans le laboratoire de M. Haber, on dénonce les crimes, on dénonce les atrocités commises par Haber, on dénonce la barbarie savante, hein, ce sont les termes employés, de l'ennemi, et de les atrocités, la dévastation calculée, tout ce sont des mots que j'emploie de l'époque. Donc ici, la science est instrumentalisée pour justifier d'un engagement qui est tout à fait logique, puisque ces guerres, encore une fois, dépassent, enfin, sont faites au nom de valeurs que les contemporains jugent comme universelles. Alors, il y a eu quand même des savants pacifistes, il serait juste de le dire, qui n'ont pas du tout participé à ce système. J'ai cité Einstein, mais il faut bien reconnaître que ça a été très marginal. Alors, dans mon propos, je voudrais bien que vous... comme je suis obligée d'aller très vite, maintenant, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est-à-dire... Il ne s'agit pas de porter un jugement en disant ces savants ont bien fait, ont mal fait, ils ne leur appartenaient pas. Il faut essayer vraiment de comprendre le système culturel. Il ne faut pas commettre d'anachronisme et de porter de jugement de notre point de vue. Donc il y a une guerre menée au nom du droit et des communautés scientifiques qui s'engagent au nom de valeurs qu'elles jugent, elles, parfaitement légitimes et dont ils pensent que la science, le crédit de la science doit servir autant qu'il sert du point de vue de l'effort de guerre. Alors, un tout petit mot de conclusion. Donc, j'avais annoncé un épilogue pour dire que, là encore, c'est peut-être pour nuancer un peu tout ce propos. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en voyant tout ça peut-être, dans mon propos, qu'il y a une culture de guerre, c'est un terme qui est un peu à la mode chez les historiens de la Grande Guerre, une culture scientifique de guerre, qui aurait, pendant 4 ans, obéi à une logique censée être extérieure à ses propres objets. Il se serait dévoyé, en quelque sorte, hein, en fabriquant les gaz, par exemple. Ils se sont mêlés à la confrontation des nations ou à la confrontation des systèmes scientifiques. Et puis, après, finalement, chacun serait retourné à ses chères études et la page aurait été... tourner. Alors, il faut bien voir, et là j'en reviens à mon point de départ, finalement, que les choses sont plus complexes, parce que il y a souvent la guerre est perçue comme les scientifiques par un temps de comme un temps de bouleversement qui est propice à des changements, à des réformes, à une réforme du système scientifique qui pourra être bénéfique, par exemple cette collaboration beaucoup plus étroite avec l'industrie, par exemple. Le fait que grâce à la guerre, en tout cas des suites de la guerre, la place dévolue à la science dans la société augmente et les crédits seront aussi en conséquence, c'est-à-dire que les États ont conscience qu'il faut développer la recherche pour ensuite préparer peut-être les conflits suivants. Donc il y a donc tout un système complexe d'intérêts auquel les scientifiques prennent place. Et donc, pour finir sur une citation un peu longue, mais c'est vraiment pour boucler avec ce que je vous disais au début, c'est une citation de Georges Duhamel. Georges Duhamel, c'est un médecin écrivain et lui-même combattant de la Première Guerre mondiale et combattant côté évidemment médical. Hein, il a été mobilisé comme médecin. Il écrit là à sa femme en 1915 dans une lettre. Et donc je lis avec vous. Pour moi, je ne cesse de me répéter que l'on fait erreur sur le sens et la portée du mot civilisation. Alors je vous rappelle que la France se bat pour la civilisation. Cette guerre est le résultat normal d'une civilisation, comme celle que nous vantions tant, que nous nous vantions tant de posséder et de développer. J'entendais l'autre jour des aviateurs réclamer un appareil qui ne fasse plus 145 mais 200 km à l'heure. Si l'on envisage la réalisation certainement prochaine d'un tel appareil comme un progrès, il faut cesser de dire que l'Allemagne est l'ennemi de la civilisation, car dans ce sens, elle n'a cessé de faire des progrès. Dans ce sens, la guerre qu'elle fait est l'expression la plus élevée d'une civilisation, toute industrielle ou scientifique. Le vrai, c'est qu'il n'y a de progrès et de civilisation que dans l'ordre moral. Il n'y a de civilisation que celle qui tente au bonheur, et celle-là se passe aussi bien des chemins de fer que des aéroplanes et des canons de 420. Alors, pourquoi ça revient au début? C'est parce que là, vous voyez vraiment la déconnexion de cette idée de Condorcet. Il n'y a plus là solidarité du progrès moral et du progrès de la connaissance. Certes, l'Allemagne peut développer, dit Duhamel, faire des progrès fantastiques des sciences et des techniques. Pour autant, alors ça c'est sa vision d'allié inclus dans la guerre, hein, donc. Mais pour autant, pour lui, elle se met au banc de la civilisation, qui, si on le rapporte au progrès moral. C'est-à-dire que tout ce qui avait fondé quand même cette association science-progrès et différents ordres de progrès, progrès des connaissances, progrès moral, eh bien, à la suite de ce premier conflit mondial, mais aussi à plus forte raison du suivant, hein, va commencer vraiment à se déliter et va donc poser des questions, de nouvelles questions, même si, et là j'en terminerai tout à fait, même si je pense qu'il ne faut pas prendre cette question de l'engagement moral des savants et cette question sur laquelle eux-mêmes se sont posés comme centrale dans la question science et guerre. Hein, c'est quand même peut-être à l'échelle de ces gros complexes sciences, société, guerre, l'engagement des savants n'est quand même peut-être qu'une question un peu un épiphénomène. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Bon, merci Anne Rasmussen pour cette superbe conférence comme d'habitude. Je suis contente que lors de ce stage, on parle d'une histoire culturelle des sciences. Tu as bien montré aussi quelle était la démarche en histoire des sciences par rapport à une thématique qui est une thématique ici pas facile du tout à travailler. Et il y aura un lien certainement avec la conférence d'Étienne Klein vendredi après-midi, parce qu'on se pose aussi la question du rapport sur ces politiques et de la manière dont les citoyens maintenant considère la science, à savoir est-ce que la science nous apporte que des méfaits. C'est ce que dit aussi Étienne Klein que tu montres très bien. Donc je vais laisser la parole à la salle et encore merci beaucoup. Est-ce que dans vos ouvrages dans les ouvrages de science, il y a des iconographies qui se rapportent à la guerre ou on en trouve dans les manuels scolaires d'histoire? Je te pose la question, quelles sont, nous on a des images dans la tête aussi hein, que tu as montré là. C'était pas Autodix, malheureusement, à notre époque, c'était très bien, ou les futuristes, mais on a des images, en effet, très, 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 très choquantes. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus, de rapport de texte à l'image. Hein. On a parlé de romans, moi, je vous invite à lire le très beau livre de Martin Dugard, Les Thibauts, qui est extraordinaire, où justement on parle des gaz et de l'implication des scientifiques, hein, parce qu'il y a un des frères qui est... C'est un merveilleux roman où on parle de ces gaz que tu as montré tout à l'heure, l'hypérite, les méfaits de l'hypérite, c'est terrible. Mais c'est un très très beau livre, vraiment très romancé, mais sur la guerre, la Première Guerre mondiale. Bon, il n'y a pas que moi qui parle. Même Patrick te
devrait ne devoir plus. Oui. J'ai pas de réponse à ta question. Hein. C'est sur un autre point, oui. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises au projet Manhattan.
Donc effectivement, la maîtrise de cette nouvelle technologie de guerre a donné une certaine impulsion aux travaux de génétique avec l'étude ces laboratoires grandeur nature qui étaient Hiroshima et Nagasaki ont permis à des scientifiques de travailler sur l'impact des radiations sur les mutations. Donc il y a eu des projets sur les génomes, etc. Donc on voit bien là le lien science-guerre. Et puis après, effectivement, le développement d'un business avec la brevetabilité du vivant. Alors, à votre connaissance, est-ce qu'il existe... Enfin, je sais que Dominique Pestre a travaillé ces questions sur la big science, etc. Est-ce que le lien science-guerre et le lien science-guerre-business est aussi l'objet de travaux historiques sur une longue durée, pourquoi pas?
Oui, je crois que c'est une question qui a été travaillée. Alors... que ce soit science-business tout court, sans guerre. Par exemple, on est revenu un peu, je pense, aux travaux de Soraya Boudia sur Marie Curie, ou les travaux nombreux sur Pasteur qui montrent. Et là encore, je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Il ne s'agit pas de porter des jugements. Enfin, on n'est pas dans la dénonciation pour autant qu'on dise business. Simplement, il s'agit de montrer que la science en société est partie prenante d'un système économique et qu'évidemment, il n'y a pas de pasteurisation de la société, comme par exemple disait Claire Salomon-Bayet, sans tout un système économique, alors avec des prises de brevets, avec des moyens de diffuser toutes les innovations pasteuriennes. Marie Curie, c'est la quête du gramme de radium au moment donc des premiers travaux sur la radioactivité, donc avec des enjeux très forts. Et parfois, là, même, on peut dire qu'elle instrumentalise, là encore, il ne s'agit pas d'en faire une image négative, mais elle met en valeur une science très désintéressée, très pure, on la voit dans un laboratoire très, très démuni. Et ce thème de la grande misère des laboratoires a souvent été un peu mis en exergue pour... et bien aussi favoriser les crédits, parce que plus la science, les systèmes scientifiques se complexifient, plus ils ont besoin d'argent. Alors dans mon histoire, moi, si j'ose dire, celle que j'ai un petit peu essayé de raconter aujourd'hui, il y a un très bel exemple, c'est Paul Langevin. Donc Paul Langevin, il participe, donc il fait des innovations au service de la guerre. Et puis ensuite, il dit, cette guerre, c'est le rôle des politiques, mais ce n'est certainement pas celui des savants. Mais il faut bien savoir que dans l'entre-deux-guerres, alors il ne s'en cache pas vraiment, mais peut-être qu'il ne le porte quand même pas tout à fait au premier plan de ses activités. Il continue pendant toutes les années 20 et 30 à avoir une activité très développée pour les laboratoires de la marine, c'est-à-dire les laboratoires militaires, et il prend des brevets, il faut bien dire des brevets assez lucratifs, hein, sur les innovations qu'il met au point, il continue sur la détection sous-marine. Donc, je pense qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, alors, c'est un point qui a été plus... qui prend une nouvelle échelle après la Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi, peut-être que les travaux critiques que j'évoquais ont porté aussi la focale là-dessus, mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus intégré à l'effort scientifique.
Oui, je ne sais pas, c'est une réflexion qui me vient là, c'est peut-être difficile d'y répondre, mais pour envoyer des gens au combat, il faut toujours les convaincre de l'utilité de leur sacrifice. Donc la science, en disant ça va être facile, vous allez ratatiner vos adversaires, ça ne va pas durer longtemps, donc allez-y, ça permet de les conditionner pour ça. Et l'autre jour, je voyais les prémices peut-être hein, d'une nouvelle façon de faire la guerre, c'est-à-dire les drones, la guerre à distance, sur un écran d'ordinateur. Est-ce que là, la science ne devient pas directement un appui de propagande en direction des politiques? Et est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire quelque chose qui ressemblerait à une révolution de l'art de la guerre, de la même manière que ce qui pourrait se profiler là?
Oui, c'est tout à fait juste à dire que la propagande elle-même, de toute façon, il n'y a pas de guerre sans effort de propagande ou diffusion culturelle au service de l'effort de guerre. Parce que, comme vous le dites, aux Premières Guerres mondiales, hein, il y a des millions et des millions d'hommes mobilisés. Il faut effectivement justifier de cet effort commun, collectif, national. Alors, La science, à ce moment-là, n'est sans doute pas, c'est pas la science qui fait propagande. Mais de fait, il y a, alors je l'évoquais brièvement tout à l'heure, il y a l'idée qu'un certain nombre de techniques pourront être mises à profit plutôt d'une humanisation du combat, ce qui nous, peut nous sembler paradoxal, mais je vous le citais, finalement, le cas de la guerre des gaz a pu être évoqué dans l'entre-deux-guerres comme un moyen d'abréger les souffrances, parce que les gaz incapacitent beaucoup plus qu'ils ne tuent, contrairement peut-être à l'idée commune, et que finalement, ça pourrait être un moyen de diminuer l'impact meurtrier de la guerre. Alors, c'est une idée très, tout à fait marginale, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'en faire l'écho comme représentative. Mais effectivement, les guerres, de toute façon, s'engagent en général par les gouvernants comme étant prévisionnellement des guerres courtes. C'est la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait ça. On pensait être revenu à Noël 14, et en novembre 1918, on y était encore. C'est aussi l'idée de la conversion de tout un ensemble à un effort de guerre qui s'installe dans la durée. Alors, où sciences et techniques ont des réponses. Mais cette idée, oui, des objets techniques comme les drones au service, alors, qui peuvent être effectivement, en tout cas, la supériorité militaire d'une armée est forcément portée à l'actif hein, d'une nation qui dit, quand elle va faire la guerre en Irak, est sûr qu'on parle de la disproportion des potentiels militaires et que derrière, il y a la technique, bien sûr.
Oui, une question qui revient un peu à l'intervention précédente concernant la position de l'Église. Justement, on connaît en fait à l'époque médiévale la protestation de l'Église par rapport à l'utilisation de l'arbalète comme outil de destruction. Est-ce qu'on a des cas, en fait, notamment par rapport à ces guerres du siècle dernier, où l'Église, voyant en fait les dégâts que causait en fait l'ensemble de ces nouveaux armements, a pris des positions?
Alors, l'Église, en fait, je ne saurais pas bien vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que depuis le 19e siècle, il y a un effort d'arbitrage international, donc l'idée de la paix par le droit, et qui va concourir, donc, à partir notamment du dernier tiers du 19e siècle, à essayer d'encadrer, de réguler la guerre, de contrôler. On ne peut pas l'en empêcher. Les vrais pacifistes, ils étaient pour empêcher la guerre. Mais finalement, le mouvement pacifiste qui va l'emporter, en quelque sorte, sur l'autre, c'est celui qui va tendre à la réguler, à lui donner des limites. Et alors là, on voit tout un discours international, juridique, pour limiter, notamment pour contrôler la nocivité de certains armements. Alors l'arbalète, en changeant de contexte, les balles doum-doum, par exemple, qui sont des balles qui étaient considérées comme beaucoup plus pernicieuses, nocives. Et donc je ne saurais pas vous dire exactement les positions. L'Église a pris position en tant que voie morale pour essayer de favoriser la fin de la guerre, hein, des tentatives d'intermédiation du pape pour mettre un terme à la guerre. Mais sur les armes elles-mêmes, honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'arbitrage international a produit des réglementations. En l'occurrence, il y a eu les conférences de la Haye 1899-1907, avant qu'il y ait ensuite des réglementations à Genève, pour un vrai contrôle de l'armement. Par exemple, les gaz étaient interdits. Mais le problème, c'est que les guerres, et en particulier la Première Guerre mondiale, c'est peut-être là aussi qu'il y a une rupture, c'est que les guerres du 19e siècle, elles sont tout à fait horribles. Les guerres de Napoléon n'ont rien à envier. Un champ de bataille napoléonien n'a rien à envier aux autres, certainement. Mais on considère qu'il y a encore un relatif contrôle qui va un peu... dont les normes vont exploser, notamment pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on ne respecte plus les trêves des blessés, des brancardiers pour récupérer les blessés, parce qu'il y a ce qu'on a pu appeler une brutalisation, c'est-à-dire un franchissement de seuil même, qui faisait que plus aucun principe de contrôle de la guerre n'est respecté.
Après la guerre 14, est-ce que la vision envers les scientifiques change? Parce que là, on est quand même dans une approche assez scientiste, hein, savoir bon, la science va résoudre tous les problèmes, et aussi les problèmes de guerre. Donc, étant donné les dégâts occasionnés, Est-ce que la science prend une nouvelle continue son progrès, ou est-ce que considère qu'en fait il y a peut-être un arrêt sur image à faire, etc., par rapport à l'utilisation qu'on a des sciences, parce que le rapport entre science et pouvoir là, il est énorme. Je posais la question, en effet, cette question-là. Voilà.
Il y a quelques voix effectivement qui s'élèvent pour une sorte de dénonciation de la science homicide. C'est le texte d'un historien français qui s'appelle Jules Isaac, qui écrit un pamphlet qui s'appelle « La science homicide ». Donc la science tue. Mais ces voix seront... Il y a aussi celle de Bertrand Russell en Angleterre, un grand ami d'Einstein aussi. Donc, mais ces voix restent marginales, parce que je crois que la vision que j'essayais de décrire comme progressiste au début de cet exposé domine, c'est-à-dire la parenthèse est finie, chacun retourne à ses laboratoires, en faisant un peu mine d'un problème qui ne se pose plus. Et comme dit Langevin, donc tout en prenant ses brevets, il dit il appartient aux politiques. La science reste désintéressée et pure, la science travaille, et c'est aux politiques de savoir ce qu'il convient d'en faire. Mais je crois que ça n'est pas central, véritablement. C'est une sorte de retour à la normale, comme ça a été le cas dans beaucoup de secteurs, le fameux secteur économique également.
Il y a au moins un exemple dans lequel une guerre, si ce n'est sur le terrain, au moins une guerre idéologique, a constitué un obstacle sérieux à l'avancement de la science. Je pense tout particulièrement à la génétique soviétique stalinienne, qui rejetait la génétique mendélienne considérée comme science bourgeoise. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type de blocage idéologique à l'avancement de la science ?
Galilée, mais il nous a bien expliqué que précisément le procès Galilée n'est pas un procès contre la science, mais je pense que vous avez absolument raison, c'est-à-dire que j'ai pas d'idée immédiate, votre exemple est absolument parfait, c'est-à-dire sans les relations science et pouvoir, évidemment ne suscite pas a priori l'avancement des sciences. Là encore, j'ai pour pas se méprendre, je parle des représentations, alors c'est toujours difficile parce qu'on est au style indirect, on dit « il pense ça », mais ça ne veut pas dire pour autant que la guerre est productrice véritablement d'avancement scientifique. Mais on est dans un système de représentation. Mais oui, non, mais bien sûr, là c'est un cas peut-être archétypique, mais de toute façon, il y a le problème aussi de... La guerre, elle stérilise déjà les moyens. La guerre de 14, par exemple, elle convertit tous les moyens de la nation. C'est vraiment une mobilisation totale, comme on parlait de cette totalisation. Et dans ce cas, la science est la victime, comme l'ensemble des activités sociales, de cette mobilisation. Alors pour la médecine, je m'occupe un peu plus particulièrement, c'est très net. C'est-à-dire qu'il y a un effort entier tourné vers la guerre, de sorte que la société civile, par exemple, paye sur le plan médical, mais aussi donc du côté des applications qui ne sont pas directement en utilité à la guerre. Là, on peut dire qu'il n'y a pas un cours linéaire de l'avancement, mais il y a bien des moments de recul et des parcours très sinueux, en effet, de cet avancement scientifique.
Merci beaucoup, Anne Rasmussen. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h, c'est ça ? À 14h. Bon appétit, tout le monde.